Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous! Cette semaine, je reçois Bruno Sainte-Rose. Il est l'un des porteurs du célèbre projet The Ocean Cleanup. The Ocean Cleanup a été initié par Bojan Slat, un jeune néerlandais, en 2013, avec pour ambition de nettoyer l'océan des plastiques qui l'envahissent. Un pari fou à l'ambition qui semble démesurée, et pourtant plusieurs centaines de kilos de plastique ont d'ores et déjà été extraits des océans. Mon invité, Bruno, est ingénieur, spécialiste de la mécanique des fluides, et a rejoint l'aventure The Ocean Cleanup en 2015. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Bruno.
Bonjour Jeanne.
Comment vas-tu?
Bah écoute, super. Bon, on va dire un peu comme un papa de deux enfants et en bas âge. Mais bon, globalement, malgré la période un peu compliquée dans laquelle on se trouve, on essaie de faire aller quoi.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît et ensuite on parlera de tout le projet sur lequel tu travailles juste après.
Donc je suis Bruno Sainte-Rose, j'ai 35 ans, donc je suis l'heureux papa de deux enfants et l'heureux époux de Juliette. Je suis ingénieur, à l'origine je suis ingénieur de l'école centrale et j'ai fait un doctorat en aérospatial. Mais disons que dans la vie je préférais être les pieds sur terre ou même les pieds sur mer que les dans l'espace. Et donc très rapidement après ma thèse, je me suis plutôt orienté vers des problématiques liées à la tout ce qui touche à la mer. Donc ça peut aller de problématiques d'offshore avec des plateformes pétrolières ou des bateaux. En gros, ma spécialité dans ce domaine qui est quand même large, c'est la simulation numérique en mécanique des fluides et des structures. Donc en gros, pour schématiquement, c'est estimer l'écoulement autour de différents types d'objets avec des ordinateurs. Donc en gros, reconstruire la physique de l'hydrodynamique, des problématiques d'écoulement de liquide ou de vagues, de courants, voilà, avec des ordinateurs. Et c'est en 2013, en fait, que j'ai entendu parler de The Ocean Cleanup. Donc maintenant, je travaille chez The Ocean Cleanup et je vais arriver au travail que je fais maintenant. J'ai commencé en 2013 comme bénévole. À l'époque, j'ai entendu parler sur Facebook, je voyais ce projet un peu fou, mais qui avait une certaine réalité et qui on va dire prenait le problème par le bon bout. Et là, j'ai offert mes services entre guillemets à Bojan Slat, le fondateur, pour en gros intégrer cette équipe de bénévoles. Donc à l'époque, il y avait une centaine de bénévoles où l'objectif, c'était de faire d'abord une étude de faisabilité sur cette idée d'utiliser les courants pour pouvoir concentrer et extraire le plastique dans les océans. Et à l'époque, j'ai été responsable d'une petite partie de cette étude de faisabilité qui consistait en fait à, justement par le calcul et la simulation numérique en mécanique des fluides, de voir quel type de plastique pouvait être intercepté et capturé par la forme de barrière flottante qu'on imaginait à l'époque. Et tout ça, ça m'a amené à contribuer à ce premier jalon du projet, en fait, cette étude de faisabilité, on va dire la V0 de The Ocean Cleanup.
C'était avec des bénévoles qui étaient partout dans le monde?
Donc, c'était des bénévoles qui étaient partout dans le monde, mais quand même concentrés autour des Pays-Bas, puisque c'est un projet néerlandais. Et à l'époque, notamment quelques étudiants de la TU Delft, puisque Bojan Slat a commencé en fait ce projet à l'époque où il étudiait à l'Université technique de Delft, hein, qui est une université pour beaucoup de problématiques d'ingénierie et fait partie des meilleures universités au monde. Et donc, c'est abouti à cette étude de faisabilité qui a du coup enclenché une première vague de crowdfunding. Où là, l'objectif, c'était de lever en 100 jours 2 millions de dollars. Le résultat a été qu'en 100 jours, il a levé 2,15 millions de dollars. Donc, il avait atteint son objectif et même l'avait légèrement dépassé. Et 40 000 personnes, hein, avaient contribué à cette campagne de financement participatif, qui du coup a permis d'enclencher en fait la solidification du projet autour d'une équipe de personnes salariées qui travaillent vraiment 100% de leur temps, hein, sur le projet. Et c'est là qu'en 2015, donc en gros, les 2,15 millions ont été levés en septembre 2014 et en juin 2015, je rejoignais l'équipe en fait dans on va dire la première vague de personnes salariées de The Ocean Cleanup. Comme responsable de la modélisation. Donc à l'époque, j'étais tout seul, hein, je suis lead computational modeler. Et l'idée, ça a été de construire une équipe autour de cette thématique de simulation numérique en mécanique des fluides, appliquée à la dispersion du plastique, à toutes les échelles qui permettent d'arriver, en gros, à être en mesure d'estimer l'efficacité du système et ou des systèmes qui sont déployés pour pouvoir nettoyer ce plastique. Donc on démarre à l'échelle globale, puisque la problématique du plastique dans les océans sont tous connectés entre eux, donc on est obligé de démarrer à l'échelle globale. Et donc il convient d'estimer les sources de plastique. Et ces sources, en fait, sont dispersées dans les océans via, en fait, les courants, les vagues et le vent. Ensuite, ces courants entraînent ce plastique vers ce qu'on appelle des zones d'accumulation, en fait, qui sont des zones qui sont haute pression et qui créent une espèce de spirale, hein. Il faut savoir ce que c'est que cette spirale, c'est quelque chose de relativement moyenné en temps et en espace. Donc dans la vraie vie, ce qu'il y a, c'est une succession de petits tourbillons qui, si on les observe sur de très longs temps, de très grandes échelles, font cette spirale qui crée cette zone d'accumulation. Donc tout ce qui flotte va s'accumuler et créer notamment les continents de plastique qui font partie de problèmes, enfin de résultats d'une activité humaine sur des échelles, voilà, globales. Et donc on part à cette échelle globale où on arrive à reproduire en fait cette accumulation de plastique. Ensuite, on introduit les systèmes et on étudie en fait comment les systèmes vont se déplacer par rapport à ce plastique, puisque c'est ce déplacement relatif du système par rapport au plastique qui va créer en fait cette différence de vitesse qui permettra d'accumuler et de après au bout d'un certain temps de récolter le plastique qui est accumulé dans ces barrières flottantes en fait. Et du coup, ben là encore une fois, des calculs de mécanique des fluides où là je vais étudier à plus petite échelle en fait comment le plastique va se déplacer avec l'écoulement créé par la présence du système par exemple. Et donc voilà, je pars si je dois résumer, je pars de l'échelle globale et qui est donc 10 000 km. Jusqu'à l'échelle en fait du plastique lui-même en trois dimensions, à l'échelle du centimètre, en fait. Donc, voilà.
Bojan Slat, quand il a eu l'idée de créer ce projet-là, qu'est-ce qui l'a motivé et comment il s'y est pris ? Parce qu'au départ, il était seul pour réfléchir à ce projet. Donc, est-ce que c'était vraiment abouti ou c'était plus un rêve, une idée ?
Donc, ça a commencé, donc, tout début de l'histoire de Bojan, c'est en 2011. En fait, donc en l'été 2011, il était en Grèce, il faisait de la plongée et il s'est rendu compte qu'il voyait plus de en fait, il voyait des sacs plastiques, il pensait que c'était des méduses et quand il se rapprochait, il voyait que c'était des sacs plastiques. Donc il y avait plus de sacs plastiques que de méduses dans les eaux en Grèce. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est un petit peu intéressé au problème, à regarder un petit peu les différentes bibliographies qui existaient sur ce problème, et avait imaginé, en fait, à l'époque, d'utiliser justement ce mouvement de spirale pour mettre des barrières qui interceptaient ce mouvement, des barrières d'une centaine de kilomètres ancrées au fond de la mer, qui permettrait de concentrer ce plastique. Donc ça a commencé sur un projet de lycée, donc c'était sa dernière année de lycée, c'est comme s'il était pendant ses vacances de première, il rentre en terminale, il doit faire le projet de fin d'études, je sais plus le nom, je sais qu'il y a un projet, le TPE.
TPE, ouais.
Voilà, donc il avait son TPE à faire et il a imaginé en fait cette idée. Qui a servi de base en fait à en fait l'enclenchement d'un engrenage qui lui a permis en fait d'avoir ce buzz quoi qui lui a permis d'avoir des ressources donc à la fois d'argent puisque il y a eu un premier crowdfunding qui était lors de 100 000 euros quoi qui lui a aussi permis d'avoir une audience de plus en plus large. Et il a fait aussi un TED Talk qui est vraiment en fait la pierre fondatrice qui lui a permis derrière d'enclencher en fait toute cette histoire de The Ocean Cleanup. Et après, voilà, disons qu'on est parti avec ces quelques millions et depuis, on a réussi à mettre au point des opérations qui ont déjà coûté une dizaine de millions et qui ont été en grande partie en fait supportées, sponsorisées par des entreprises, etc.
Parce que nous, on a en tête quand on pense à Ocean Cleanup principalement la très grande barrière qui est partie de San Francisco et qui devait se diriger vers cet océan de plastique. Néanmoins, en parallèle, vous avez travaillé sur d'autres projets qui ont été peut-être un peu moins médiatisés. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Tout à fait. Donc, comme tu le dis si bien, ils ont été assez peu médiatisés pour cause, ils étaient secrets. Donc, en gros, The Ocean Cleanup, jusqu'à octobre 2019, développait ces systèmes de barrières flottantes pour nettoyer le Great Pacific Garbage Patch, donc qui accumule en fait du plastique que l'on a hérité de l'activité humaine sur les 70 dernières années. Donc c'est le plastique qui est resté et qui a été persistant en fait à la surface. Mais évidemment, si on n'arrête pas, si on n'intercepte pas le plastique avant qu'il rentre dans ces océans, donc le nouveau plastique, nouveau notamment parce qu'il faut savoir que quand le plastique rentre au niveau des rivières, il met entre 5 et 10 ans pour arriver dans cette zone d'accumulation. Évidemment, aussi, entre ces 5 et 10 ans, il y a d'autres phénomènes qui se passent, de la dégradation, qui peuvent à terme potentiellement faire que le plastique n'est même plus récupérable puisqu'il finit par sédimenter et finir au fond des océans. Tout ça pour dire qu'il fallait fermer le robinet. Donc si on voulait effectivement faire qu'il n'y ait plus de plastique dans les océans, il fallait aussi trouver un moyen d'intercepter les plastiques dans les rivières, aux embouchures des rivières, pour que ce plastique ne rentre pas tout bonnement dans les océans. Donc c'est pour ça que à peu près quand je suis rentré dans l'entreprise, donc je crois que ça avait commencé en avril 2015, ils avaient commencé à réfléchir justement à ces systèmes pour les rivières. Donc la problématique dans la rivière, c'est qu'on ne peut pas complètement boucher une rivière boucher entre guillemets en surface, on ne peut pas intercepter sur toute la largeur de la rivière. Donc il a fallu vraiment quelques années aussi d'ingénierie, de réflexion, de voir comment on pouvait faire que le flux de plastique, qui est plus de 80% du flux de plastique dans la rivière, qui puisse être intercepté par nos systèmes.
Sachant qu'il ne faut pas non plus que ça intercepte la faune et la flore.
Voilà, tout à fait. Et où estimer en fait l'impact, hein, puisqu'on ne peut pas dire que tout a un impact. Dès qu'on interfère avec la nature, on a forcément un impact, mais il convient de l'estimer. Donc l'objectif étant évidemment d'avoir un impact positif au global, puisque l'objectif c'est de régler un problème environnemental qui peut en créer un petit autre, mais qui au global est positif. Donc c'est évidemment notre driver principal, c'est que nos systèmes sont évidemment confrontés en fait à l'estimation de leur impact, et du coup on est obligé d'ingénierer de façon à avoir un impact le plus minimal possible. Donc c'est comme ça qu'on arrive avec ces systèmes où là on arrive avec un produit fini. Donc, on dévoile en octobre 2019, qui est un système autonome, au sens de la... Il n'est connecté à aucun réseau, hein, en fait. Donc, on peut le mettre partout dans le monde où il y a du soleil, puisque c'est un système qui fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, un très grand toit. Et en dessous, un système qui permet d'extraire le plastique de la masse d'eau, donc qui ressemble à une sorte de tapis roulant un peu perfectionné avec des chariots qui permettent de remplir des grosses bennes qui après sont là. Par contre, évidemment, une fois qu'elles sont pleines, c'est là qu'on fait appel à des prestataires ou des salariés en interne, hein, enfin pas en interne, dans les pays concernés, qui du coup permettent la connexion avec le réseau, mais là pas le réseau électrique, mais le réseau de nettoyage et de traitement des déchets, quoi.
Est-ce que ça c'est pas compliqué? Est-ce que les communautés ou les pays sont disposés à payer pour ce type de service et de recyclage ou pas?
Bah, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le constat qui est fait, et même plus qu'un constat, c'est une étude qui a été faite par Deloitte, c'est quel est le prix de ne rien faire. Et on se rend compte que le prix de ne rien faire est un ou deux ordres de grandeur plus élevé que le prix des systèmes qu'on déploierait pour justement intercepter le plastique avant qu'il ne fasse des dégâts sur les plages, qu'il y ait un impact d'un point de vue touristique, etc. Et même d'un point de vue environnemental pur, quoi. Sans compter le dégât qu'il fera une fois qu'il finira dans les océans, puisque la rivière, c'est quelque chose. Entre la rivière et les océans, on estime à 70% en fait des plastiques qui vont rester et qui vont en fait faire des allers-retours entre la plage, la bordure côtière, la plage pendant des dizaines d'années. Et donc du coup, c'est vraiment ce plastique-là qui va causer des dégâts qui sont considérables par rapport à justement essayer de les nettoyer une fois qu'ils sont dans la rivière. Puisque bon, on peut aussi dire, vous avez qu'à installer des poubelles. Le problème des poubelles, c'est que en fait, d'une certaine façon, la rivière, c'est triste à dire, mais comme elle fait partie en fait de ces vecteurs du plastique dans les océans. Donc les vecteurs, ça va être en fait les zones qui contribueront de façon massive au transport, puisque un plastique qui est sur le sol, sauf s'il y a beaucoup de vent, et le vent va pas toujours peut changer de direction, il y a peu de chances qu'il finisse dans l'océan directement. En revanche, s'il pleut, il finira à terme, par la gravité, finira dans des zones en fait de prise de rivière, et les flux finiront dans cette rivière, et donc le plastique sera déjà accumulé dans la rivière. Et vu que la rivière aussi circule très vite, elle convoie dans le temps, par heure, par jour, une quantité de déchets beaucoup plus élevée que, je sais pas, des milliers de poubelles prises dans la région et déployées de façon aléatoire.
Est-ce que vous avez déjà implanté ces produits, ces dispositifs dans certaines rivières ?
Au moment où on a révélé le projet, il y avait déjà deux systèmes qui étaient opérationnels et au total, quatre systèmes produits, donc construits en attente de déploiement, notamment un qui était le jour de la présentation. Contrairement évidemment au système pour les océans qui sont vraiment très gros, hein. Comme tu le disais, le système à San Francisco, il faisait 600 mètres de long, donc on peut imaginer qu'on ne peut pas, à moins d'être dans quelque chose qui fait deux fois la longueur d'un stade, on ne peut pas dévoiler un tel système en direct. En octobre 2019, il y avait un système qui a été démontré en direct au moment de la révélation au monde du fait qu'on travaillait dans les rivières, puisque évidemment sur toute la période entre le moment où on a commencé à faire nos systèmes pour les océans et le moment où on a révélé les systèmes dans les rivières, il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient vos histoires des océans, c'est n'importe quoi, pourquoi vous faites, c'est beaucoup plus facile entre guillemets de faire des choses dans les rivières et beaucoup plus efficace en termes de masse collectée. Nous on disait oui, écoutez, oui, on y réfléchit, alors qu'en fait ça faisait quelques années où activement on était en train d'y travailler, mais on ne voulait pas être Le fait que ce soit des projets qui aussi peuvent avoir un financement, puisqu'on s'adresse à des territoires, on s'adresse à des municipalités, à des administrations qui, elles, ou même des sponsors locaux, qui peuvent financer ces projets. Alors que le système dans les océans, là, c'est le public, c'est les donateurs qui financent le projet. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, on aura une approche beaucoup plus normale, enfin pas une approche pour le développement d'un produit, hein, comme n'importe quelle entreprise le ferait. Ils n'iraient pas crier sur tous les toits à chaque fois qu'ils ont une V0.1. Voilà. Voilà. Donc une fois que le produit était effectivement fonctionnel et avait déjà des plus que des proof of concept, et que notre objectif, c'est de commercialiser ce produit-là. Enfin, quand je dis commercialiser, c'est le faire des projets autour de ce produit-là qu'on a révélé au public comme n'importe quelle marque le ferait, quoi.
Qui est-ce qui peut être intéressé après pour récupérer les plastiques ? Qui va payer ? Parce que c'est toujours la problématique avec le recyclage.
Donc, l'idée, c'est d'utiliser ces systèmes comme des espèces de porte-drapeau de nettoyage de l'océan. Et donc, notre idée serait de proposer, en fait, à des entreprises, à des États, de sponsoriser, d'être propriétaire, entre guillemets, de ces outils de nettoyage de l'océan. Voilà, telle entreprise, je sais pas, Suez, a acheté des systèmes machin pour collecter tant de plastique des océans, parce que le plastique dans les océans a aussi un impact environnemental, vu le fait qu'il soit persistant et la durée, en fait, c'est la problématique du plastique dans les milieux marins, c'est pas nécessairement la quantité, c'est la quantité sur une certaine durée. Et notamment au niveau de la dégradation, en gros, plus le plastique va rester dans une certaine zone, plus il y aura en fait de niveaux de dégradation dans la colonne d'eau qui feront que des plastiques de plus en plus petits vont être absorbés par des organismes de plus en plus petits et donc du coup colonisera en fait toute la chaîne alimentaire de ces milieux, quoi.
La grande barrière, elle s'est malheureusement fissurée. J'imagine que c'est quelque chose que vous aviez anticipé. Vous vous doutez bien que ça pouvait arriver. Quelle a été votre réaction? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Parce que ça faisait 4 mois qu'elle était mise en place.
Oui, oui.
Comment est-ce que ça a été vécu?
Oh ben, ça fait toujours... Bon. Disons que quand on est dans le projet, en fait... Tout ce qu'on va apprendre, plus on l'apprend vite, mieux on se porte. Donc, si la barrière, effectivement, vu qu'on avait comme objectif de la laisser pendant 6 mois, si elle ne s'était pas fissurée sur ces 6 mois, elle se serait peut-être fissurée sur 8 mois. Mais au bout des 6 mois, on dirait, ah ben, on est content, elle ne s'est pas fissurée. Vu que notre objectif final, c'est d'arriver à 10 ans, d'une certaine façon, entre qu'elle se fissure au bout de 8 mois ou qu'elle se fissure au bout de 4, d'une certaine façon, ça nous a permis de faire des économies en opération si on devait la maintenir encore pendant 2 mois en opération. Surtout que finalement, la deuxième itération de ces barrières, finalement, n'intégrait pas le même élément technologique qui a entraîné la fissure du premier système. Donc, la fissure en elle-même, c'était pas une raison majeure de crier à l'échec. Ce premier système nous a notamment mis l'accent sur le fait qu'il faille, en plus de la barrière en elle-même, parce qu'il faut voir que cette barrière-là n'avait aucun système permettant de créer en fait une différence de vitesse supplémentaire, si ce n'est que le fait qu'il y ait un écran en fait sur une certaine profondeur serait l'élément qui créerait cette différence de vitesse.
Ce qui s'est passé, c'est que c'était trop lourd et donc ça s'est fissuré ou elle avançait trop lentement.
Donc le problème du fissurage, en fait, c'est un problème que d'une certaine façon les gens ont potentiellement rencontrés dans leur vie de tous les jours, ceux qui sont amateurs de carambars. Si vous prenez un carambar et que vous le tordez dans tous les sens, au bout de peut-être 10 allers-retours, le carambar va se casser. En haute mer, il faut voir qu'il y a des vagues d'une certaine taille qui passent avec une certaine fréquence. Et on estime en gros à plusieurs millions le nombre de cycles qu'a subi le système. Donc, faut imaginer que c'est une fissure qui est vraiment très très lente et que en fait c'est un processus purement mécanique. Après, au niveau de ce qu'on a appris d'un point de vue de la du déplacement du système, c'est qu'il se déplaçait par rapport au plastique trop lentement. Donc du coup, il fallait rajouter, comme je l'indiquais, un système supplémentaire, donc en l'occurrence un parachute sous-marin, permettant d'avoir cette différence de vitesse de façon plus régulière et plus importante surtout. Donc qui permettent d'accumuler le plastique plus vite. Et c'est ce qu'on a vu sur la deuxième version, donc qui a été déployée en juin 2019. Donc on va dire fissuration 30 décembre 2018. On a réussi à ingénier un système relativement nouveau par rapport au premier, en moins de 6 mois, enfin même 3 mois, le temps de tout monter, etc.
Donc un temps beaucoup plus court.
Ouais, on était à l'eau 6 mois plus tard. Donc là, pareil, donc là on a testé une autre façon de créer cette cette vitesse à travers l'eau, quoi. C'est en anglais speed through water. C'est vraiment le paramètre qu'on va regarder pour évidemment. Bon, quand on capte le plastique, il y a deux choses. Il y a la quantité de plastique qu'on rencontre. Donc, est-ce qu'on est au bon endroit? Et la vitesse avec laquelle on navigue à travers ce plastique. Donc voilà, donc ça nous a permis, là pour le coup, on avait designé pour 3 mois et finalement on est resté 6 mois et il n'y a rien qui s'est cassé. Donc parfois on arrive à générer du bon côté et ça nous a permis notamment de tester d'autres choses et qui permettront au système numéro 2, puisque donc les deux premiers c'était système 1 et système 1B. Là, on développe un système numéro 2. Donc là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a d'autres éléments, etc. Où là, l'objectif étant de faire le premier d'une potentielle flotte qui pourrait... Enfin, le modèle de base d'une potentielle flotte qui permettrait du coup d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés d'un point de vue de l'efficacité des systèmes. Donc, avec comme objectif en 20 ans de nettoyer 90% du plastique qui flotte.
Avec la version V1B, au bout de 6 mois, est-ce que vous avez été en mesure de récupérer ce plastique?
Donc, avec ce plastique-là, on a créé un produit qui va être vendu à un certain nombre de milliers d'exemplaires. Voilà.
Oui, donc vous avez vraiment réussi à le récupérer.
À recycler.
Le récupérer, le recycler, voilà. Et le réutiliser. Votre système, il a été mis à l'eau et déployé depuis San Francisco. C'est le lieu où vous fabriquez tous ces éléments. J'imagine qu'il faut bien les fabriquer quelque part. C'est de grands éléments ou comment ça se passe?
En l'occurrence, en fait, l'élément que tu évoques, c'est le pipe. Hein. C'est vraiment la partie la plus importante du système. Donc, les pipes, en fait, ils sont faits en Autriche. ils sont envoyés à San Francisco. Pourquoi San Francisco? C'est parce qu'on veut essayer de nettoyer le Great Pacific Garbage Patch, qui est la zone d'accumulation la plus importante de plastique dans le monde. Donc, il y a 5 gyres, les 5... vortex d'ordures, océan Indien, donc c'est le deuxième après ce fameux Great Pacific Garbage Patch, donc celui du Pacifique Nord, océan Indien, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Sud, dans l'ordre qu'on estime de la quantité de plastique.
Il vous a été un petit peu reproché d'agir trop tard, ou en tout cas en bout de chaîne, et de ne pas prendre le problème... à son essence même, néanmoins, ce plastique qui est dans les océans, il faut bien s'en occuper. J'imagine que c'est aussi la position de Boyan quand il a eu l'idée de créer ça, c'est que même si on arrête, et je pense qu'on doit tous tendre à limiter notre usage du plastique, néanmoins, il faudra s'occuper aussi de ce plastique dans les océans.
Oui, c'est justement, j'irais même plus loin, c'est qu'il faut commencer, si on veut vraiment être efficace, il faut commencer par l'éducation. Après, sur toute la, on va dire, sur tout le voyage du plastique jusqu'au garbage patch, il y a différents moments où il est possible d'agir, en recyclant mieux, en ayant plus de poubelles, etc. En agissant aussi sur... les producteurs de plastique, sur les designers d'objets, pour minimiser en fait déjà la création de plastique, donc du coup toute la partie recyclage, en fait il faut que on arrête de produire du plastique, donc soit on change la façon dont on design les objets ou on change d'objet, ou on arrive à tout recycler pour que le plastique qui a été créé soit suffisant pour remodeler tous les objets d'utilité quotidienne. On est très très loin d'y arriver. Et donc évidemment, on peut agir sur l'éducation, qui évidemment, si l'éducation permet aussi d'agir sur ces producteurs de plastique via les consommateurs qui en évitant certains types de produits, font réagir le producteur qui va se dire « Ah ben tiens, il faut que je repense la façon de soit designer mes objets, soit bah, à un moment donné, bah, on produit moins de plastique, bah, c'est pas grave, on fait peut-être du plastique de meilleure qualité, ou je sais plus. Et donc nous, à The Ocean Cleanup, on pense que d'abord, nous, si on veut réussir notre projet, il faut qu'on soit focus. Il faut qu'on ne s'éparpille pas trop, puisqu'on peut travailler sur tous ces maillons de la chaîne. Donc là, on a décidé d'agir sur deux maillons de la chaîne qui nécessitent de la technologie. Donc nous, on est une entreprise technologique, mais notamment par ces produits, par la communication qu'on a pu faire sur nos 7 ans d'existence, l'éducation, on l'a fait par la prise de conscience des gens sur le problème qu'on essaie d'attaquer. Et le fait qu'il y ait des personnes qui nous soutiennent sur cette partie en aval montre aussi que, eh ben, à un moment donné, si on veut à un moment donné qu'il n'y ait plus de plastique dans l'environnement, à un moment, il faut le nettoyer. C'est trop tard, de toute façon, comme j'expliquais. Si on voudrait agir efficacement sur le plastique qu'il y a dans les garbage patches maintenant, il faudra agir il y a 7 ans. Donc, il y a une échelle de temps qui fait que, voilà, à un moment, il faut développer la technologie. Nous, on a choisi de prendre cette voie-là, mais on admet qu'il convient d'avoir toutes sortes de projets sur tous les maillons de la chaîne. Et nous, on revendique néanmoins d'agir un peu sur la partie prise de conscience et d'une certaine façon, une partie éducative, quoi.
De toute façon, même si demain on arrêtait de produire du plastique, comme tu l'as expliqué, ces garbage patches continueraient de se remplir et de se remplir pendant au moins une dizaine d'années. Donc il faudra bien faire quelque chose. Et ce qui est intéressant avec toute cette problématique, c'est, je trouve, la position des États, en fait, où comme c'est dans l'océan que ce sont des eaux internationales, personne n'a vraiment envie de s'en occuper, parce que c'est pas sur son territoire. Et tout le monde se renvoie un petit peu la balle, et comme ça représente quand même des sommes astronomiques, personne s'y intéresse vraiment. Et c'est, je pense, pour ça aussi que Ocean Cleanup et même Boyan, à l'époque, quand il en avait parlé, ça a fait autant de bruit et ça a été aussi bien accueilli, parce qu'on s'est dit, enfin, un projet qui se bouge pour trouver une solution pour ces garbage patches, parce qu'il y avait eu quelques documentaires déjà, il y avait eu des recherches sur le sujet, mais c'est tout en fait. À part des documentaires, il n'y avait eu aucune initiative de prise.
Je veux aussi rajouter que il y avait beaucoup de science qui a été faite. Hein. C'est d'un point de vue, et justement, c'est grâce à cette science qu'on a pu faire notre étude de faisabilité, puisqu'on ne peut pas dire je pense que l'étude de faisabilité a dû durer un an. En un an, on n'a pas pu refaire toute la science. Disons qu'on était sur les épaules de géants de quand même au moins une vingtaine d'années entre le moment où le capitaine Charles Moore a traversé de Hawaï jusqu'à San Francisco et s'est rendu compte à un moment donné qu'après avoir traversé pendant quelques jours des eaux relativement propres, il se retrouve tout d'un coup à plus de 2000 km des côtes avec cette augmentation de la quantité d'ordures. Après, les personnes qui partent en expédition chez nous, ils le voient aussi. Hein. Ils sont là, ils traversent, ils voient les belles eaux du Pacifique et puis paf, vraiment au milieu de nulle part, hop, la quantité de plastique, la quantité de ce qu'on appelle les filets fantômes, qui sont en fait des filets qui ont fini en mer, soit qui ont été dont les pêcheurs se sont débarrassés, ou une opération de pêche, une tempête, il y a des filets qui ont fini à l'eau, et donc une augmentation de ce genre d'éléments. Et du coup, nous, on veut garder, on veut aussi contribuer d'un point de vue scientifique à la connaissance. Sur le garbage patch, puisque un projet technologique peut ne pas marcher. On n'a pas dit qu'on n'a pas gagné. Enfin, je veux dire, on y travaille, on a des résultats prometteurs, mais on n'a pas encore la technologie, en tout cas pour les garbage patch, qui marche à 100% encore. Mais essayer de résoudre un problème nécessite aussi d'avoir une connaissance de ce problème approfondie. Et on pense que les recherches qu'on a faites avec The Ocean Cleanup, des recherches vraiment sur la quantité de plastique dans les garbage patch, en ayant fait la plus grosse opération simultanée de collecte de données sur la quantité de plastique qui flotte dans ces garbage patch. On a aussi fait des expériences pour savoir la quantité de plastique dans la colonne d'eau. Ça n'avait jamais été fait avant, quoi. Sur les 10 premiers mètres, savoir quel est le profil du plastique. Essayer de regarder encore plus profondément. Il y a une étude qu'on a publiée récemment où on étudie en fait le plastique jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Bon, là, en l'occurrence, ce sont des microplastiques, mais après, si on arrive à comme ça comprendre les différentes briques qui permettent de comprendre et d'estimer la quantité de plastique et d'où provient le plastique, des rivières, vraiment des bassins versants des rivières, donc sur la terre, des bassins versants des rivières, au niveau des embouchures des fleuves, toutes les investigations qu'on a pu faire au niveau des fleuves, la distribution verticale du plastique dans les fleuves, de regarder différents types de fleuves ou de rivières. Il y en a certaines où, en fait, il y a des écoulements qui oscillent, quoi. À des moments, le plastique va et vient à l'intérieur de l'embouchure du fleuve. On a aussi développé des systèmes qui permettent, avec une caméra, de mesurer la quantité de plastique qu'il y a dans une portion de rivière avec de l'intelligence artificielle. Toute cette recherche scientifique qui est publiée, je pense qu'on a dû publier une trentaine de journaux à comité de lecture, dont des publications qui ont fait vraiment mais des scientifiques, hein, c'est pas juste des publications sur Facebook, c'est des publications scientifiques à comité de lecture, notamment une qui a fait numéro 7 sur le top 100 altmétrique de 2018, qui regroupe toutes les publications de journaux au monde. Donc c'est la 7e qui a eu le plus grand retentissement, ce qui montre en passant que les gens s'y intéressent au problème. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et on veut que cet héritage, que au moins, même si on a échoué soit sur la technologie en elle-même, soit sur, on s'est retrouvé face à des problématiques de financement ou de se retrouver pour les rivières dans des problématiques où on ne peut pas, dans certains territoires, ils sont pas intéressés par nettoyer leur rivière. Évidemment, on ne pourra pas arriver à notre ambitieux objectif. Mais, comme je dis, c'est important pour nous de laisser au moins cet héritage, d'avoir amélioré la compréhension et la science derrière l'accumulation du plastique dans les environnements aqueux. 30 publications scientifiques pour une fondation qui ne soit pas un labo, en 5 ans, c'est quand même honorable.
Parfait. Eh bien, écoute, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi.
J'indiquerai le lien vers votre site et vos nombreuses publications, etc., dans la barre de description de l'épisode, de toute façon, pour les auditeurs. Et puis merci beaucoup et à bientôt.
C'était super.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, vos collègues et votre famille. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir Basilic. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me laisser un commentaire et des étoiles sur votre application de podcast afin que de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs puissent découvrir chacun des épisodes. Votre soutien est précieux et je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses à écouter mes fabuleux invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.